Affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Fernandez de l'Académie française pour son dernier roman « L'homme de trop ». Ce livre dresse le portrait amical de Lucas Faber, 62 ans, photographe en fin de carrière et homosexuel. Il réveille les fantômes de ses compagnons perdus, Robert le boulanger, Gaspard l'intellectuel, Sacha l'enfant renié, Yuri le voyou yougoslave. Tous ces hommes qu'il a aimés au fil des années, entre confidences et réminiscences, le dialogue exhume les vieilles blessures. Il laisse aussi place aux questions d'un esprit libre, parfois perplexe, devant le conformisme de la nouvelle génération. À travers lui, nous suivons l'évolution de la communauté gay en France, des années 60 au début du quinquennat Hollande, à la veille de l'adoption du mariage pour tous. Bonjour Dominique Fernandez.
Bonjour.
Alors vous appartenez à l'Académie française, nous l'avons dit. Vous faites aussi partie de la commission du dictionnaire et vous êtes sensible aux mots à ce titre. Il y en a un que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez guère. Il a été créé par un écrivain hongrois dans seconde moitié du 19e siècle.
Oui.
Vous voyez duquel je parle, il s'agit du terme homosexuel.
Oui, parce que d'abord homosexuel, ça, on dirait un nom de médicament ou de dentifrice, c'est affreux. En plus, c'est un nom barbare, parce que homo, ça vient du grec, ça veut dire le même. Et sexuel, c'est du latin, sectus. Donc c'est un con. Mais en fait, ce Benkert voulait... il voulait rompre avec la terminologie méprisante qu'il y avait avant. C'est-à-dire, on parlait de vice, de tare, de dégénérescence. Il voulait créer un mot neutre. Et donc c'était pour lui un progrès. Mais aujourd'hui c'est impossible ce mot. Heureusement, il y a le mot « gay ». Ça ne veut pas dire que tous les homos soient gays, hein, mais ça veut dire, quand même, ça, c'est plus joyeux. Et donc, aujourd'hui, tout le monde dit gay. Hein.
Alors, la condition des gays, comme vous le dites, est le sujet central de cet ouvrage. Et ce n'est pas la première fois que vous en parlez. Vous aviez écrit « L'étoile rose » en 1978. Mais depuis, les choses ont changé. Quel regard portez-vous sur toutes ces évolutions ?
C'était un bouleversement, c'est une révolution. Vous savez, moi, je suis une vieille génération où le gay, qui ne s'appelait pas gay, mais encore homo, était un paria, vraiment. Condamné à une vie clandestine, honteuse. Jusqu'en 68, qui a été le mai 68, qui a été la date symbolique du retournement. Mais ça a été lent, après. Et donc, on est passé de l'époque de la clandestinité, de la honte, de la... à l'époque totalement libre, qui a aujourd'hui, en France, hein, parce que c'est pas pareil dans le monde, mais c'est vraiment une révolution. Moi, j'ai vu en 50 ans, là, vraiment, il y a eu un progrès, si on peut dire, mais fantastique. Dans aucun domaine, il y a eu un progrès aussi rapide. Peut-être dans la médecine ou la chirurgie, mais sinon... Et ça, c'est une chose assez formidable, quand même. Hein.
Ce roman dresse le portrait d'un homme, mais en réalité, de plusieurs... hommes, il y a plusieurs hommes de trop qui sont présents par leur prénom, Sacha, Yuri, Gaspard. En quoi est-ce important ces prénoms que vous mettez en avant comme des têtes de chapitre ?
Oh, parce que c'est le nom de qui portait, enfin que je leur fais porter, parce que tout ça est imaginaire évidemment. Et c'est non, il n'y a pas d'intention spéciale. Mais vous remarquez que ces quatre garçons appartiennent à l'époque passée de Lucas. Lucas, qui a 62, 63 ans, il évoque sa jeunesse à lui, quand 30 ans plus tôt, ou 20 ans plus tôt, je ne sais plus, enfin. Et c'est l'époque encore, justement, de la difficulté, où on est caché, on ne peut pas... Enfin, l'époque de la non-liberté.
Et du rapport à la famille.
À la famille, et toute l'horreur des psychanalytiques, des psychanalystes, là, qui sont épinglés, là. C'est parce que Et ça, je pense à mon époque, personne ne parlait de l'homosexualité dans les médias, par exemple. Une émission comme aujourd'hui, c'est même impensable. Ça n'existait ni dans la presse, ni dans, il y avait pas dans les films, ça n'existait pas dans les romans. On n'en parlait pas. C'était ça qui était le plus dur. C'était le déni d'existence. L'homo n'existait pas. Et donc ça, sauf dans les psychanalystes, c'est les seuls les psychanalystes qui parlaient de nous, mais les seuls absolument. Et moi, je me suis gavé de ces livres. Il y avait Stekel, qui était un disciple de Freud, il y avait une série d'autres, mais c'était effrayant le tableau qu'il faisait, et qui se résumait à ça: je n'ai jamais connu d'homosexuel heureux. C'était là ce que Stekel disait. Et donc, si on croyait à ces lectures, parce que comme c'était les seuls qui avaient l'air au courant, on disait, je ne serais jamais heureux, je suis condamné à une vie ratée, à une vie incomplète. Et moi, j'ai vécu dans ce climat, donc je sais ce que c'était affreux. Et tous les gens de ma génération ont vécu comme ça.
Ces quatre garçons dont vous dressez le portrait viennent pour la plupart de provinces. Vous citez ces villes et ce n'est pas un hasard. Est-ce qu'il y a une réalité particulière de la province sur ces
questions ? Oui, parce qu'à Paris, c'était plus évolué. À Paris, on pouvait quand même se débrouiller dans l'anonymat de la grande ville. Mais dans les petites villes, et à plus forte raison dans les villages, c'était absolument... Même aujourd'hui, ça reste difficile dans les villages, chez les paysans, les ouvriers. C'était vraiment impossible. Donc ils viennent de province parce que ils sont vraiment coincés, quoi, par leur... Alors la famille, c'est effrayant. Vous savez, c'est encore l'époque où les familles, je cite le cas des parents de Sacha, si le fils leur disait, s'il découvrait que le fils ou la fille à 16 ans, 17 ans était homo, il prenait ses affaires, il les mettait sur le paillasson, il disait « je ne te connais plus ». Ça arrive encore aujourd'hui, vous savez. C'est plus rare, mais ça arrive encore aujourd'hui. Mais autrefois, c'était relativement fréquent. C'est-à-dire le père, surtout le père, se croyait outragé d'avoir un fils homo. Donc, il reniait simplement. Et il y avait une société que je décris, le Refuge, qui existe toujours, à Montpellier, qui recueillait bénévolement ces garçons et ces filles qui étaient sur le pavé, à l'époque, donc sans argent, sans études, sans rien. Enfin, c'était affreux.
Il y a un autre point commun entre ces personnages. Ils sont souvent jeunes et dans une situation difficile. Et Luca aime jouer le rôle de sauveteur, comme le souligne son ami. Vous montrez finalement l'ambiguïté de son caractère. Et...
Oui, parce qu'à l'époque, Luca, qui a donc... à l'époque, il a 40 ans, mettons. Il n'accepte au fond une relation, il n'accepte de se lancer dans une relation qu'en se punissant en quelque sorte par l'aide qu'il apporte. C'est-à-dire qu'il donne beaucoup d'argent, il loge, etc. C'est une façon de se punir, de payer, parce qu'ils sont tellement coupables qu'ils se déculpabilisent en quelque sorte par des cadeaux, par ça faisait partie de la psychologie gay autrefois.
Il veut se sentir utile.
Oui, utile et surtout moins coupable. Il est moins coupable puisqu'il aide quelqu'un d'autre. Donc il se sent moins coupable. C'est pas le plaisir qu'il guide, c'est aussi l'altruisme, le fait de se dévouer à quelqu'un.
Vous dites que ces personnages appartiennent au passé et dans le roman, beaucoup sont morts. Robert est mort du sida, par exemple. Sacha disparaît dans un accident trouble aux circonstances criminelles. On le comprend à demi-mot. Il y a une présence en contrepoint, c'est celle de son ami Gaël,
voilà,
un jeune professeur de littérature avec lequel il noue un dialogue truffé de références artistiques et de références littéraires. Ils ne sont pas toujours d'accord parce qu'ils n'appartiennent pas à la même génération.
Non, Gaël
génération.
A 30 ans et donc il a 30 ans de moins. Donc c'est justement une autre génération. Tout le roman et le second volume encore plus joue sur l'opposition entre celui qui a vécu autrefois à l'époque des parias et puis le jeune qui est né dans la liberté.
Pour Gaël, Lucas fait parfois figure d'ancien combattant.
Oui, c'est ça, c'est un ancien combattant. Là, lui-même se sent quelquefois ancien combattant. Et j'ai voulu montrer que, parce que j'ai beaucoup d'amis gays plus jeunes, beaucoup ne se rendent pas compte qu'autrefois, la liberté n'existait pas. Pour eux, comme ils sont nés libres, ils croient qu'ils ont toujours été libres. Ils sont très ingrats envers le passé, envers ceux qui se sont battus pour qu'ils soient libres aujourd'hui. Ça me frappe beaucoup, la jeune génération, et même moins jeune maintenant, parce qu'il y a plusieurs. Ils pensent qu'ils ont toujours été libres. Ils ne se rendent pas compte que jusqu'en 68, c'est-à-dire il y a 50 ans, quoi, à peu près, un peu plus de 50 ans, c'était le contraire. Alors ça, j'ai voulu mettre ça en relief.
Parce que Lucas se montre parfois justement très critique envers cette génération qu'il ne comprend pas toujours.
Ben oui, mais ils ne comprennent pas et ils comprennent de moins en moins. À mesure qu'ils sont plus jeunes et que le passé s'éloigne, évidemment, ils ne comprennent pas. C'est comme aujourd'hui, les gens ne comprennent plus les souffrances des soldats de la garde 14. Ça paraît une espèce de chose.
Est-ce que ce n'est pas dans l'ordre des choses d'oublier?
Oui.
Ou est-ce oublier, qu'au contraire, il faut entretenir cette mémoire?
Non, c'est bien sûr oublier, surtout, ce qui est dur pour les plus âgés comme Lucas, c'est qu'on oublie les souffrances qu'eux ont endurées, les combats qu'ils ont menés, parce que ça a été très dur, la conquête de cette liberté, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et ça, les gens qui sont nés dans la liberté pensent que ça a été donné comme ça en naissant.
Il parle d'une forme d'embourgeoisement, de confort.
Ah ben ça sera le sujet du second volume, surtout.
Ah, vous faites une annonce pour la suite.
L'embourgeoisement des gays, parce que le progrès amène fatalement des effets pervers, quelquefois. Enfin, ça sera le second volume.
Parce que finalement, on sent qu'il y a deux écueils. Soit l'entre-soi, que vos personnages fuient absolument, soit l'assimilation qui dilue toute différence.
Justement, alors, pour moi, mon idée, enfin l'idée de Lucas, mon personnage, c'est que l'homosexuel, puisqu'on l'appelait ainsi autrefois, portait une différence, une spécificité auquel il tenait, et surtout une force de contestation de la société. Comme il était rejeté par la société, lui, il contestait les valeurs, la société, la famille, le confort, tout ça. Et du moment où ils veulent s'assimiler et rayer leurs différences, ils perdent aussi leur caractère. Les jeunes gays aujourd'hui, ils sont exactement comme les jeunes hétéros, ni plus ni moins. Enfin, c'est les mêmes modes, les mêmes usages. Ils n'ont plus cette force politique même de contestation qui faisait partie de la spécificité homosexuelle.
Et vous le regrettez ?
Oui, je le regrette. Mais moi, je suis partagé. Enfin, mon héros est partagé parce qu'il est heureux que les gens soient heureux, si vous voulez, qu'ils puissent vivre comme ils veulent. Il n'a plus force de se cacher, tout ça. Mais en même temps, il regrette qu'ils perdent avec le bonheur, ils perdent cette force de cette différence, cette force de contestation qui était dans la société quand même quelque chose de très important. Et c'est pour ça que je me réfère à Gide, par exemple. Gide qui a non seulement écrit Coridon, comme vous le savez, mais qui a été le premier à dénoncer en URSS le culte de la personnalité, à dénoncer Staline, le premier à dénoncer le colonialisme dans ses écrits, vous savez, c'est après son voyage en Afrique noire. Donc, du fait qu'il était en marge, il critiquait les valeurs. À l'époque, tout le monde était pro-communiste. Et tout le monde était. La colonialiste ne posait même pas de problème. Ça faisait partie de lui. Son esprit aiguisé par le fait qu'il n'était pas comme les autres lui permet de s'élever, de critiquer certains aspects. Et aujourd'hui, que le gay est complètement assimilé, il ne critique plus rien du tout, quoi. Il jouit de la vie tranquillement. Donc c'est très bien, c'est tant mieux. Mais qui prendra le relais, voilà.
Vous, qu'est-ce que vous aimeriez garder, transmettre de ces années-là du passé?
Je pense que même si on est assimilé, il faut garder l'esprit de contestation, de protestation, de différence. Il faut refuser l'assimilation complète.
Garder quelque chose d'irréductible.
D'irréductible et de... Et qui est utile à la société, parce qu'une société où personne ne conteste pas, elle est morte, ça devient une espèce de je sais pas, enfin c'est pas...
Vous parlez des femmes, notamment à travers la figure de Léa, et vous les considérez comme des alliées. Pourquoi ?
Ah ben, de tout temps, les femmes ont été... Parce qu'elles ont un ennemi commun, c'est l'homme machiste. L'homme machiste qui méprise les femmes comme il méprise les gays. Donc... Historiquement, même en 68, ça c'est que j'ai vécu, moi, en mai 68, ça a été, il y a une alliance historique entre les femmes féministes, enfin, qui luttent, et puis les gays qui luttaient, parce qu'ils avaient, tous les deux, ils aspiraient à la reconnaissance, à la liberté. Vous savez, le statut de la femme, c'est comme le statut des gays, autrefois, c'était effrayant. C'est beaucoup trop jeune pour connaître ça, mais la femme n'existait pas, c'était le reflet de l'homme, enfin, c'était... C'est dans le dictionnaire de l'Académie française, la première édition en 1694, du temps où c'était Racine, La Fontaine, La Bruyère qui faisaient le dictionnaire, la femme a été définie comme la femelle de l'homme. Vous vous rendez compte? Et en 1935, c'est quand même pas très vieux, c'est la 8e édition, je crois, ou, enfin la dernière, la femme est décrite encore comme la compagne de l'homme. Vous voyez, elle n'était jamais considérée comme quelqu'un, comme un être humain indépendant. C'est toujours par rapport à l'homme. Et c'est ce qu'elle était. Elle n'avait pas, vous savez qu'elle n'avait pas le droit de signer un chèque fait que le mari autorise. Elle n'avait pas le droit de voter jusqu'en 1945. Vous savez, c'est, De Gaulle a donné le droit de vote aux femmes. C'est incroyable que dans un pays quand même démocratique avancé, la femme était encore dans une condition inférieure. Donc il est normal qu'il y ait une alliance entre les femmes conscientes de ce scandale et les gays, une sorte d'alliance contre le pouvoir qui était masculin et dominateur.
Comment les voyez-vous, les femmes d'aujourd'hui, justement?
Ah bah écoutez, je vois... Alors, il y a les féministes radicales qui sont un peu envahissantes. J'en connais, j'ai des amis d'ailleurs. Alors que je fais partie de jury, vous savez, littéraire, il y en a une qui m'a dit « Je ne voterai jamais pour un homme ». Alors là, je trouve ça complètement excessif et ridicule. Parce que quand on juge un roman, ça m'est égal si c'est un homme ou une femme qui l'écrit. Il faut qu'il soit bon, puis basta. Donc ça, il y a les radicales qui sont un peu envahissantes, mais sinon, il y a eu là aussi un progrès formidable. Enfin, que les femmes sont libres et indépendantes et égales absolument des hommes. Mais c'est différent parce que les femmes... enfin non, c'est pas différent, c'est...
Est-ce qu'elles sont endormies, elles
aussi ? Non, parce que ce n'est pas le même problème, quand même. Les femmes étaient sous-traitées, mais n'étaient pas persécutées. Ce n'étaient pas des parias, quand même. Simplement, elles n'avaient pas les mêmes droits que les hommes. Elles n'avaient pas les mêmes... Elles étaient considérées comme inférieures, mais... D'ailleurs, beaucoup, quand même, étaient très libres. Hein. Ma mère, par exemple, qui était professeure de lettres, était une femme très indépendante, mais elle n'avait pas le droit de vote, elle n'avait pas le droit de signer un chèque sur son mari. Vous voyez ? Mais... Le gay, enfin l'homosexuel, était persécuté. Il pouvait être en prison même, vous savez. Il pouvait être. Il y avait des lois pénales contre lui. Il y avait des choses. Donc c'est comme très différent.
Pour en revenir à votre roman, vous y insérez des textes de nature très différente. On y trouve par exemple une bibliographie sur la symbolique du cochon Sacha représente beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
Oui, c'est le chapitre que je préfère, moi.
Ah.
Qui a beaucoup surpris, qu'on m'a reproché, que le foie, il y a 50 pages sur le cochon. Pour moi, le cochon, c'est l'animal le plus calomnié. C'est pour ça que je fais un parallèle avec le gay. On dit que c'est un animal sale, mais c'est parce qu'on le met dans la boue, vous savez. Évidemment, la boue est sale. Mais moi, j'ai vu des cochons libres en Espagne, en Corse, je ne sais plus où. C'est les animaux les plus propres du monde. Hein. Ce sont les animaux les plus intelligents, vous savez. C'est dans la ferme de Orwell, quand les animaux prennent le pouvoir, ils élisent comme chef un cochon, parce que c'est celui qui... Et c'est l'animal le plus proche de l'homme par la physiologie aussi. Et donc, j'ai voulu faire un... Je me suis amusé à chercher tous les textes qui parlent du cochon. Et j'en ai trouvé un étonnant, c'est celui de Buffon. Buffon, qui est quand même du 18e siècle, qu'on pourrait penser avec les idées de son époque, il dit « Le cochon ne ressemble à personne, parce qu'il n'a pas les pieds fourchus, il n'a pas les pieds ceci, il est complètement anormal. » Et il dit « Pourtant, il est la nature, donc il est normal. » Et ça, c'est extraordinaire. Ça pourrait s'appliquer aux homosexuels. Ils sont différents, mais ils sont quand même dans la nature. Vous savez, très longtemps, on a dit qu'ils étaient contre nature. Ça, c'était le grand argument même de Freud. Ils sont contre nature. C'est absurde. La nature est vaste et englobe le gay comme le cochon. Et le cochon est différent. Et il y a c'est extraordinaire, le chapitre de Buffon, que personne ne cite jamais. Moi, j'ai lu, c'est extraordinaire, parce qu'il décrit tout ce qui est anormal, il n'y a pas que les pieds fourchus, il a l'estomac comme ça, il a je ne sais pas quoi. Enfin, mais il dit, il est dans la nature, donc il faut repenser, dit-il, notre conception de la nature. La nature est beaucoup plus vaste que l'idée qu'on s'en fait. Et ça, c'est très profond. Les gens décident qu'on est... C'est comme Hitler a décidé que les Juifs étaient contre nature. Vous voyez, ou que les racistes, que les Noirs sont contre nature. La nature est vaste et englobe tout ce qui vit pratiquement. Et ça, Buffon, on devrait sortir ce texte, je trouve, pour tous ces problèmes de différence.
Comment l'avez-vous découvert, ce texte ? en préparant ce livre.
Non, parce que j'ai cherché animal, donc je me suis dit, Buffon, comme il parle des animaux tout le temps, j'ai pris un...
Il doit y avoir quelque chose.
J'ai pris l'édition complète et je suis allé au chapitre cochon et sanglier, parce qu'ils sont dans la même famille. Et surtout, ça a coûté des années, j'ai tout rassemblé des textes depuis l'Antiquité jusqu'à Céline, Marcel Aimé, qui en parle. Enfin.
Vous semblez avoir pris beaucoup de plaisir à écrire un autre passage, c'est celui de la leçon de Gaël sur Phèdre de Racine.
Ah oui, ça c'est passionnant.
Il est écrit comme une pièce de théâtre, ce passage.
Oui, ça c'est passionnant parce que ça c'est un ami que j'ai, un ami prof, justement. C'est celui qui a expliqué à ses élèves que toute la pièce repose sur le retour de Thésée. C'est beaucoup plus important que la passion entre Phèdre et Hippolyte, le retour de Thésée. Et c'est le retour qui met fin à cette passion, à ce début de passion. Et c'est extraordinaire, personne ne s'est jamais aperçu, c'est que Thésée arrive exactement au milieu de la pièce, au milieu mathématique. Je ne sais pas, mettons que la pièce est 2000 vers, hein, c'est pas que ça, mais il arrive au vers 1000. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, là, il y a une césure, avant il y a la passion qui monte, et puis le père qui rentre, le roi, et qui met de l'ordre dans tout ça, et qui va conduire à la fin de cette histoire. Et Gaël, moi j'aime beaucoup, c'est une figure de prof, je pense que c'est le plus beau métier du monde, être professeur, surtout aujourd'hui. Vous savez, ils sont très mal payés, ils se dévouent entièrement à leurs élèves, et puis former la jeunesse, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant, je crois. Moi, j'étais prof longtemps, mais malheureusement, en fac seulement, et en fac, c'est beaucoup moins intéressant, parce qu'ils sont déjà formés, ils foutent rien, ils sont pas... Mais au lycée, en première, surtout, les grands, enfin, si vous voulez, en terminale, les former à bon prof, ça peut changer le destin d'un enfant.
Ce livre est un premier volume. Vous en avez annoncé un second. En réalité, vous avez écrit tout ce texte d'une seule traite. Pourquoi l'avez-vous coupé en deux?
Parce que là, il y a 400 pages presque, non?
Tout à fait.
Combien?
Presque. 385.
Oui, mais le second aura 420, donc ça fait 800 pages. 800 pages, ça fait un pavé. Moi, j'ai horreur. C'est la mode aujourd'hui. Vous savez, on a des pavés, toute l'œuvre comme ça. On ne peut pas lire ça dans le métro. Enfin, c'est... Non, alors on a décidé de couper en deux avec mon éditeur. Et en plus, la césure tombe très bien, c'est pas artificiel, puisque la seconde partie...
Comme chez Racine.
Oui, mais c'est pas voulu même. Mais quand il promet ses posées, j'ai constaté que la seconde partie est beaucoup plus contemporaine, puisque on aura toute l'histoire de la campagne pour le mariage pour tous, l'élection de Hollande, les manifs, et puis l'évolution des gays à la suite du mariage.
Nous aurons donc peut-être le plaisir d'en reparler. Deux questions pour finir, Dominique Fernandez. Pour vous, qu'est-ce que le courage?
Ah, c'est une vertu capitale. beaucoup de mes semblables en sont dépourvus, je dois dire. La grande faiblesse des gays autrefois, en fait, beaucoup, c'est qu'ils n'avaient pas le courage de se déclarer, de faire leur coming out. Donc, ils accentuaient la servitude Donc, le courage, c'est une chose admirable. Je trouve que c'est une des vertus que j'admire le plus.
Et aujourd'hui, quel est votre moteur dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait avancer?
Le moteur dans quoi?
Dans votre vie, qu'est-ce qui vous fait avancer?
Toujours depuis le début. Moi, c'était l'amour et le travail. Depuis que j'ai commencé à écrire et à aimer, ce sont les deux... qui vont de pair, parce que si on ne fait qu'aimer, on s'embourbe dans le bonheur. Et si on ne fait que travailler, on se dessèche. Donc, il faut équilibrer l'un par l'autre.
Eh bien, c'est ce que nous vous souhaitons pour la suite. Je rappelle le titre de votre livre, « L'homme de trop », c'est aux éditions Grasset.
Premier volume,
et le second...
Le premier volume, il y a pour sous-titre « L'arc-en-ciel interdit ». L'arc-en-ciel, vous savez, c'est le badge...
L'emblème.
L'emblème des gays. Donc interdit, l'époque où c'était interdit. Et le second volume va s'appeler « La liberté trahie ». C'est-à-dire, ils sont devenus libres, mais, comme on a évoqué, au détriment de ce qui faisait leur originalité.
Eh bien, vous nous donnez envie de connaître la suite, mais il faudra attendre le mois de février.
Février.
À bientôt.
À bientôt, merci. Thank you.